fall into big savings, all in the Kroger app.
Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Chapitre 7 de l'épouvante par Maurice Level. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. De 6h du soir à 10h du matin. En sortant du bureau de poste, Onésime Coche reprit possession de lui-même. Depuis 3 jours, il n'avait rien vu, rien appris que l'angoisse d'un homme traqué. C'était là non du reportage, mais de la littérature. Alors qu'il aurait tout voulu savoir, il ignorait tout et comprenait que l'ignorance devait être, pour un vrai coupable, un grave motif d'énervement. De plus, détail qui avait sa valeur, il n'avait pas changé de linge. Son faux col douteux le gênait, ses manchettes étaient sales, il se sentait mal à son aise. À sa gêne morale s'ajoutait une gêne physique. Il résolut d'aller chez lui, après l'extinction du gaz, pour ne pas être vu par la concierge, et, vers minuit, s'arrêta devant sa porte. Javel, qui s'était rapproché doucement, eut, en le reconnaissant, un sourire de triomphe. La bête venait se prendre au piège. Il reprit sa faction, ne perdant pas de vue l'entrée. Des agents, le voyant regarder la maison avec insistance, lui dirent, bourru, « Qu'est-ce que vous attendez, là ?» Il répondit, presque sans détourner la tête, « Sûreté !» et leur montra sa carte. Au bout d'une demi-heure, Coche n'était pas redescendu. Javel pensa, « Aurait-il l'audace de coucher chez lui ?» Après tout, s'il n'est pas coupable, si son départ n'est lié en aucune façon à l'affaire, cela n'a rien de surprenant. Il est entré avec le patron dans la chambre du boulevard Lannes, et peut fort bien avoir laissé tomber les bouts de papier. Pourtant, un tel désir, un tel besoin de savoir le tenaillait qu'il ne sentait plus le froid. Les passants devenaient de plus en plus rares, et le guet n'en était que plus facile. Il marchait de long en large, sûr que le journaliste ne pourrait plus sortir sans qu'il le vît. Vers 2 heures, la porte s'ouvrit enfin. Coche demeura un instant immobile et referma sans bruit. Javel le vit hésiter, puis faire un pas, regarder à droite et à gauche, et enfin partir, droit devant lui. Il lui laissa prendre quelques mètres d'avance et se mit en marche à sa suite. Ils descendirent ainsi jusqu'au boulevard, gagnèrent les quais par la rue de Richelieu et traversèrent la Seine. « Du diable si je sais où il m'emmène !» murmura Javel en le voyant remonter dans la direction de la place Saint-Michel. « Mais où qu'il aille, je ne le lâcherai pas avant de l'avoir couché. » Coche prit le boulevard Saint-Michel et s'arrêta près du Luxembourg, semblant s'orienter. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» pensa Javel. Il connaît sûrement le quartier, et il a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut. Et il ajouta à mi-voix, « Allons, mon vieux, c'est l'heure de te coucher !» Juste au même moment, Coche se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Javel ne bougea pas, mais Coche tressaillit et repartit d'un pas plus rapide dans la direction de l'observatoire. Le boulevard était désert, et le policier regardait sur le trottoir, sec et tout blanc, fuir l'ombre du journaliste. Cette course vers un but inconnu l'énervait. Il commençait à sentir la fatigue, le froid. Par instants, il éprouvait la sensation de sauter sur Coche et de lui mettre la main au collet. Mais s'il était innocent, quelle faute ! C'était la révocation, le scandale ! Il continuait donc à marcher, les poings serrés, mâchant sa rage. Coche finirait bien par entrer dans une maison, et il lui faudrait encore attendre jusqu'au jour, par cette nuit glaciale, avec le ventre creux, les pieds gelés et les doigts engourdis. Tout à coup, une voix derrière lui fit doucement « Bonjour, Javel !» Il se retourna et reconnut un collègue de la sûreté. Du coup, la gaieté lui revint. Il mit un doigt sur ses lèvres, entraîna son camarade par le bras et lui dit très bas
« Chut, méfiance !»« Tu as quelque chose ?»« Oui, là devant nous, à 20 mètres. »« Sérieux ?»« Tu parles. Je crois que je tiens. » »« Mais je ne peux pas te le dire pour l'instant. » »« Écoute, si tu n'es pas trop fatigué, je te propose une affaire. »« Prends mon homme en filature. » Il y a peut-être quelque chose de tout premier ordre. Et on ne peut pas savoir? Pas maintenant. Dans quelques heures, ce matin. Moi, je suis éreinté. Et puis, je crois que le client m'a vu et que je suis brûlé. Il ne se méfiera pas de toi. Ça va?
Peu, fit l'autre. Si ça te rend service, tu veux que je le couche?
D'abord. Ensuite, que tu ne lâches pas sa porte. Demain matin, à 10 heures, fais-moi prévenir de l'endroit où il aura fini sa nuit et de celui où je peux venir te relever. Je serai devant le 16 de la rue de Douai. Mais pour l'amour de Dieu, ne le lâche pas d'une semelle. Jamais nous n'aurons peut-être de plus belles parties à jouer. Et tu auras ton morceau de gâteau, je te le garantis, si ça réussit. Tout ça, c'est bien gentil, mais je voudrais savoir tout de même.
Eh bien, fit Javel, sentant que son camarade hésitait, et qu'il fallait jouer franc jeu pour ne pas risquer de tout perdre,
eh bien, je file probablement l'assassin du boulevard Lannes. »
Il n'était pas certain le moins du monde que Coche fût coupable, mais il se rendait compte que, s'il hésitait, l'autre refuserait peut-être de marcher. L'appât d'une telle capture suffit à décider le policier qui dit encore, tant la chose lui paraissait formidable,
« Tu es sûr ?»«
Sûr !» répondit Javel avec autorité.
« Tu vois que cela vaut le dérangement. Tu peux compter sur moi, je le tiens bien. Et surtout, pas de gaffe. Le bougre a de l'œil et des jambes.
Moi aussi. À 10 heures, quelqu'un aux nouvelles, 16 rue de Douai ?»«
Compris. »
Javel fit demi-tour et redescendit vers l'intérieur de Paris. Il était tranquille. Coche ne lui échapperait pas, et s'il s'était trompé, nul, sauf le camarade intéressé à présent au même titre que lui, à ne pas ébruiter l'affaire en cas d'insuccès, ne connaîtrait l'emploi de sa nuit. Depuis le Luxembourg, Coche n'avait plus tourné la tête. Il allait devant lui, au hasard, plus averti de danger par son instinct que par le regard échangé avec le policier. Par instant, il ralentissait sa marche pour mieux entendre le bruit de ce pas qui se mesurait sur le sien. Une seconde, lorsque les deux policiers s'étaient rencontrés, il s'était cru sauvé. À ce moment, s'il avait trouvé une rue transversale, il aurait fui à toutes jambes. Mais bientôt le bruit de pas lui était parvenu, plus net, et il avait compris que deux hommes au lieu d'un étaient à sa poursuite. Il retrouvait dans sa course des angoisses pires que celles de la nuit du crime quand il remontait seul le boulevard désert. La même peur de l'inconnu le tenait, le même silence que rien ne traversait emplissait ses oreilles. Plus le terrain s'allongeait au-devant de lui, plus il se hâtait et moins il croyait avancer. Il sentait des regards peser sur sa nuque, devinant les voix chuchotantes, comme si l'imperceptible frisson qu'elle mettait dans l'air était arrivé en ondes sonores jusqu'à lui. Son excitation nerveuse était telle qu'il serra la crosse de son revolver, résolu à faire brusquement demi-tour et à tirer. Seule une pensée, vraiment extraordinaire, l'empêcha de commettre cet acte insensé. La peur de ne trouver personne devant lui et de se rendre compte qu'il était halluciné. La folie lui était toujours apparue comme un spectre effrayant, et l'idée qu'il lui faudrait se rendre compte d'une défaillance de sa raison l'épouvantait. Or, il sentait qu'il n'était plus maître de lui, et que l'horrible peur s'installait dans son cerveau, paralysant sa volonté, faussant son jugement. Bientôt la fatigue l'envahit, cette fatigue brusque qui coupe bras et jambes, contre laquelle on sent qu'on ne pourra lutter, qui vous met du plomb aux semelles et fait tout oublier, chagrin, péril, remords. Il titubait, pris d'un besoin de sommeil impérieux, torturant comme la faim, comme la soif. Les dents serrées, l'épouvante à la gorge, Il se répétait « Avance, avance !» Tout au bout de l'avenue d'Orléans, près de la barrière, il aperçut la lanterne ronde d'un hôtel. Il sonna, attendit, appuyé contre le mur, que la porte s'ouvrit, demanda une chambre, se jeta tout habillé sur son lit, sans même prendre la précaution de fermer le verrou ni de tourner la clé, et s'effondra dans le sommeil comme on s'effondre dans la mort. 2 minutes plus tard, le policier qui se souciait peu de finir sa nuit à la Belle Étoile sonnait à son tour et, de l'air le plus naturel du monde, disait au garçon « Donnez-moi une chambre à côté de celle de mon ami qui vient d'entrer. Quand il s'éveillera, vous me préviendrez, mais ne lui dites pas que je suis là. Je lui fais une blague. » Il monta l'escalier à pas de loup et, le garçon sorti, colla son oreille à la muraille. La respiration de Coche était pesante et cadencée. Alors, il s'étendit sur son lit et, sûr de ne pas le manquer, s'endormit à son tour. Cette nuit-là, Coche rêva qu'il était dans une prison et qu'un gardien surveillait son sommeil. La réalité se rapprochait étrangement du rêve. Depuis quelques heures, il avait cessé d'être libre pour n'être plus qu'une bête traquée qui, peu à peu, allait sentir se rétrécir tout autour d'elle le cercle infranchissable des limiers. À 8 heures du matin, Javel reprit sa faction devant le 16 de la rue de Douai. Il aurait pu monter tout simplement chez Coche et parler à la femme de ménage. Il préféra éviter la concierge et attendit sur le trottoir qu'elle sortît. Comme il est sans exemple qu'à Paris une concierge demeure plus d'une heure dans sa loge, surtout le matin, à l'heure où les cancans s'éveillent, il était sûr de pouvoir bientôt passer sans être vu. Quelques minutes plus tard, en effet, la concierge sortait. Il en profita pour entrer. Il ignorait à quel étage demeurait le journaliste, mais ce léger détail ne l'arrêta pas, et, sonnant à la première porte venue, il demanda « Monsieur Coche, s'il vous plaît. » « Ce n'est pas ici, c'est au 4e. Je vous demande pardon. » Au 4e, une vieille femme vint lui ouvrir. « Monsieur est là ? » fit-il du ton d'un homme qui pose cette question pour la forme, certain qu'à pareille heure, « Monsieur est là ?»«
Non, monsieur. »
Il sourit. « Dites que c'est moi, il me recevra sûrement. Vous n'aurez qu'à faire passer mon nom, monsieur.
Mais je vous assure que monsieur n'est pas là. »
« J'aurais cru. C'est bien ennuyeux. Vous ne savez pas quand il rentrera ?» La femme leva les bras.
« Je ne sais plus maintenant. Voilà 4 jours qu'il est parti. Il peut rentrer d'un moment à l'autre, comme il peut ne pas rentrer. »
« C'est que, » murmura Javel, « j'aurais bien besoin de le voir. »«
Qu'est-ce que vous voulez ? » fit la femme. « Entrez. Peut-être il va revenir ?»«
Oui, je vais attendre un instant. » Il pénétra dans le cabinet de travail et s'assit, se demandant comment il pourrait engager la conversation. Mais il n'eut pas à faire le moindre effort d'imagination. La femme de ménage se chargea de tout et sans qu'il lui posât la moindre question, répéta
« Oui, voilà 4 jours qu'il n'est pas rentré. C'est drôle, vu que d'habitude il ne s'absente jamais sans prévenir. Il y a là pour lui des lettres, des dépêches, des personnes le demandent, et on ne peut pas les renseigner.
Peut-être est-il allé dans sa famille ?
Oh, sûrement non, sa valise est là, et puis il est parti drôlement.
Vous l'avez vu partir ?
Non. Quand je suis arrivée ici le matin, j'ai trouvé le lit défait, ses habits de soirée sur une chaise. J'ai tout rangé, nettoyé. Comme d'ordinaire, il ne sort jamais avant 11 heures, ça m'a bien un peu étonnée. En rentrant chez moi pour déjeuner, je ne sais pas pourquoi ça me trottait par la tête, et vous ne savez pas quelle idée m'est venue ? Il faut vous dire qu'une fois déjà, il était parti comme ça de très bonne heure pour aller se battre en duel. Je me suis dit que c'était peut-être bien ça, encore.
Oh, croyez-vous ? Je l'aurais su.
À présent, je dis comme vous. Mais sur le moment, ce qui me faisait croire, c'est qu'on aurait dit qu'il s'était disputé. Lui, d'habitude si soigneux, vous savez bien, puisque vous êtes son ami.
Oui, oui, s'empressa de répondre Javel. Très soigné.
Eh bien, son plastron était taché de sang et...
Et ? Fit le policier prodigieusement intéressé.
Le poignet de sa chemise était tout froissé, déchiré, et il avait perdu un de ses boutons de manchette, un de ses boutons qu'il y tenait tant.
Ses boutons en or avec des turquoises ?
Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Enfin, dit Javel, bégayant presque de joie.
Des petites pierres bleues. C'est ça. Eh bien, la boutonnière était arrachée et le bouton manquait. Alors vous vous seriez dit comme moi qu'il s'était disputé, vu que c'était un bon garçon, mais...
Javel s'empressa d'interrompre la vieille femme. Tout ce qu'elle pouvait dire maintenant était sans intérêt auprès de ces deux déclarations formidables. Du sang sur la chemise et surtout la disparition d'un bouton dont la description répondait à celle du bouton trouvé dans la chambre du crime. Mais encore la chose lui semblait si prodigieuse, le hasard avait l'air de tout préparer pour lui avec une telle complaisance qu'il voulut voir et savoir tout de suite. Aussi, dit-il, feignant l'étonnement,
« Êtes-vous sûr ?»«
Comment si je suis sûr ?»«
Puisque vous connaissiez ces boutons, vous allez juger ?»« J'ai gardé la chemise tout exprès dans le cas qu'il ne s'en serait pas aperçu et qu'il aurait cru que moi, je l'aurais perdu. Je vais vous montrer. »
Elle passa dans la chambre à coucher, mais à peine y était-elle entrée qu'elle s'écria
« Ah ça, par exemple, c'est trop fort. Il est venu depuis hier et il a changé de linge. » L'armoire est toute sens dessus-dessous. Tenez, dans le panier, voilà sa chemise de flanelle. Elle n'y était pas hier.
Diable ! Songea Javel. Est-ce que par hasard, en venant cette nuit, il aurait fait disparaître la chemise maculée de sang et le bouton de manchette ? Je sais bien que la vieille serait toujours là pour reconnaître celui que nous avons, mais ce serait moins net et moins brillant surtout. Il la suivit dans la chambre à coucher, tout en murmurant.
« Qu'est-ce que vous dites là? Qu'il a changé de linge ici hier? Et je suis bien sûre de ce que je dis? Voilà sa chemise de flanelle qu'il ne met que pour le matin. Hier, il n'y avait dans le panier à linge que la chemise de soirée avec sa tache de sang, là, et son poignet déchiré ici. Quant à l'autre bouton de manchette que j'ai retiré, il est sur la cheminée. Vous voyez que je ne vous mens pas. »
On aurait mis entre les mains du policier la plus admirable des pierres précieuses qu'il l'eût contemplée avec moins de joie, d'amour, que ce bijou sans valeur. Il le tournait, le retournait, et plus il le maniait, plus il le frôlait de ses doigts tremblants, plus son œil s'allumait de plaisir, plus la certitude s'établissait en lui qu'il était identiquement pareil au bijou ramassé boulevard Lannes. Ainsi, en moins de 24 heures, guidé par un chiffon de papier portant des lettres sans suite, il était parvenu à éclaircir ce mystère qui paraissait indéchiffrable. Tant qu'il n'avait eu contre coche que le morceau d'enveloppe, il n'avait pas osé formuler son soupçon. Mais là, le doute n'était plus possible. Tout apparaissait avec une netteté extraordinaire. La tache du plastron, du sang qui avait rejailli, la manche déchirée, le bouton arraché? Tout dans la chambre du meurtre n'indiquait-il pas que le vieillard s'était défendu désespérément, qu'il y avait eu lutte corps à corps? Une seule chose demeurait louche, inexplicable. L'attitude de Coche depuis la découverte du crime, son sang-froid souriant, son désir de revoir, avec le commissaire, le corps de la victime, sa victime. Enfin, comment expliquer qu'un garçon tranquille, heureux, honorable, soit devenu subitement un criminel, un voleur? À moins d'admettre la folie, mais cela n'était plus de son ressort. Sur un indice que d'autres avaient jugé sans valeur, il n'avait pas craint de partir en campagne, et la piste sur laquelle il s'était engagé l'avait conduit au but avec une rapidité surprenante. Il n'en demandait pas davantage. Dans une heure, l'affaire serait terminée, Coche serait arrêté, bouclé, à moins que le camarade ne l'ait laissé filer. À cette seule pensée, une rage lui traversa l'esprit et, pour se rassurer lui-même, il se répéta « Ce n'est pas possible, il n'a pas fait ça !» Maintenant qu'il savait tout ce qu'il pouvait savoir, il était trop impatient d'avoir des nouvelles de celui qu'il considérait déjà comme son prisonnier pour continuer à bavarder une minute de plus avec la vieille. Il regarda sa montre et dit « Je ne peux plus l'attendre, je m'en vais, mais je reviendrai. » Et en prononçant ces mots « Je reviendrai », Il sourit malgré lui, trouvant un charme étonnant à exprimer cette pensée si simple et cependant si lourde de menaces. Sous la voûte, il croisa la concierge, mais ne s'arrêta pas. Quand il arriva dans la rue, il était exactement 9h30. Un homme faisait les 100 pas. Aussitôt qu'il le vit, l'homme vint à lui et dit entre les dents « Javel ?»«
Parfaitement, » fit le policier, et il ajouta
« Où est-il ?»«
À l'hôtel qui fait le coin de l'avenue d'Orléans et du boulevard Brune, avec le camarade. »
« Très bien. Saute dans un fiacre, va les rejoindre, et retenez-le pendant 1 heure. Au besoin, n'hésitez pas à lui mettre la main au collet. Je prends tout sur moi, ne craignez rien, tout va bien. »
L'homme partit. Javel monta en voiture, donna l'adresse du commissariat, et, rassuré, triomphant, se frotta les mains. Pour l'instant, il n'entrait dans sa joie aucun espoir de gratification ni d'avancement. Il était pris par le seul plaisir du succès, par un plaisir neuf, désintéressé, et se sentait envahi d'un orgueil tel qu'il n'eût pas cédé son secret pour une fortune. En arrivant, il trouva dans l'escalier un camarade qui lui glissa
« Monte vite, le patron t'attend, je crois qu'il va te raconter quelque chose. »
Javel haussa les épaules et répondit, sans se presser
« Ça va, ça va. »
Il s'attendait à une réprimande pour avoir quitté son service sans prévenir et sans chercher les ordres. Les événements avaient pris une tournure telle qu'il n'avait eu ni le temps ni l'idée de prêter la moindre attention à ces détails. Bien plus, il ne lui déplaisait pas d'être mal reçu. Il ménageait ainsi un effet plus certain à la nouvelle qu'il apportait. Aussi, lorsqu'il fut devant son chef, laissa-t-il passer l'orage sans l'arrêter par la moindre protestation. Le commissaire était d'autant plus nerveux qu'un juge d'instruction venait d'être commis pour suivre l'affaire et qu'il allait se trouver dans l'obligation de lui transmettre un commencement d'enquête ridiculement pauvre. Il saisit donc l'occasion de faire retomber sa colère sur quelqu'un. Il était vraiment extraordinaire qu'un inspecteur en prît ainsi à son aise. Qui avait donné à Javel l'autorisation de ne pas revenir? Il l'avait chargé d'une mission, et Javel se permettait de donner simplement un coup de téléphone? Si pourtant il avait eu besoin de lui. Et il en avait eu besoin. Les autres inspecteurs étaient occupés, ils comptaient sur lui, l'avaient attendu jusqu'à 8 heures. Si à ce moment il avait eu un homme sous la main, il tiendrait peut-être la bonne piste maintenant. Qu'avait-il à dire à cela? Quelle explication, quelle excuse pouvait-il donner de son sans-gêne?
« Monsieur le commissaire, » dit enfin Javel, en choisissant ses mots, « vous pensez bien qu'il a fallu un motif grave pour m'empêcher de faire mon service comme vous désirez qu'il soit fait. Ce motif, le voici. Suivez-moi. Dans moins 1 heure, je vous aurai montré l'assassin du boulevard Lannes et vous n'aurez plus qu'à l'arrêter. Vous voyez que je ne me suis pas amusé cette nuit, et, quant à votre piste, à moins qu'elle n'ait été la même que la mienne, je puis vous garantir qu'elle ne valait rien. »
Le commissaire l'écoutait bouche bée. La nouvelle lui paraissait tellement invraisemblable qu'il se demandait si l'inspecteur ne se moquait pas de lui et qu'il lui dit, plutôt pour être sûr d'avoir bien entendu que par manque de confiance dans sa perspicacité,
« Répétez ce que vous venez de me dire. »
« Je vous répète que je tiens l'assassin du boulevard Lannes et que dans 1 heure, vous le tiendrez, vous aussi. »
« Enfin, comment en êtes-vous arrivé ?»«
Écoutez, monsieur le commissaire, si sûr que je sois de mon fait, il n'y a pas de temps à perdre. Mieux vaut tenir que courir. Partons. En route, je vous donnerai tous les détails que vous voudrez. Pour l'instant, je vais vous en fournir un qui n'est ni le moins surprenant, ni le moins décisif. L'homme qui a tué le vieux du boulevard Lannes, l'homme que j'ai filé toute la nuit, l'homme qu'un camarade a couché avenue d'Orléans et qu'il garde à cette heure, l'homme enfin que vous allez arrêter de ce pas, se nomme Onésime Coche. »
« Êtes-vous fou ? »
s'écria le commissaire. « Je ne pense pas. Et quand je vous aurai dit que le bouton de manchette trouvé près du cadavre à son frère jumeau sur la cheminée d'une maison portant le numéro 16 de la rue de Douai, vous reconnaîtrez comme moi qu'il ne sera pas sans intérêt de demander à M. Coche Onésime ce qu'il faisait dans la nuit du 13. »
Fin du chapitre 7, enregistré par Ezois, en Belgique, en octobre 2010.
Chapitre 8 de L'épouvante par Maurice Level.
Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'inquiétude. Onésime Coche s'éveilla vers 10h30, la tête lourde et les membres reposés. Durant la nuit, tant de rêves fantastiques avaient traversé son sommeil que ses idées avaient peine à se réunir. Il s'étonna d'abord de se trouver dans cette chambre qu'il n'avait jamais vue et d'être tout habillé sur son lit. Il faisait froid. Autour de lui, tout était triste, inconfortable et sale. Des chiffons froissés dépassaient la trappe rouillée à la cheminée. Au mur, le papier clair à fleurs roses et bleues se moirait de taches d'humidité ou de graisse. Le lit était douteux. Le couvre-pied rapiécé laissait passer par endroits des flocons d'étoupe jaunâtre et, à un porte-manteau planté de côté, pendait une vieille jupe de femme. Ce fut seulement après avoir regardé pendant un moment tout cela que le souvenir de son retour chez lui, de sa course à travers Paris, au hasard des boulevards et des rues, et de sa certitude d'avoir été suivi, au moins depuis le Luxembourg, lui revint. Il essaya de raisonner froidement. Il avait été suivi? Était-ce bien vraisemblable? Pourquoi choisir l'hypothèse la plus compliquée alors qu'il était si simple et si naturel de croire que l'homme qu'il avait croisé en haut du boulevard Saint-Michel était un paisible passant? Cet homme avait exactement suivi sa route. Et après, il n'était pas dans un quartier perdu en rase campagne. L'homme pouvait fort bien rentrer chez lui, et pourtant il n'avait pu se défendre de frissonner quand leurs regards s'étaient croisés. Son angoisse un instant apaisée le reprit. Il sentit le froid et la tristesse morne de cette chambre de rencontre, décor de drames pauvres, taudis où avaient défilé sans doute toutes les laideurs et toutes les misères des hommes. Il avait dormi son sommeil d'homme libre, innocent, sur ce lit défoncé où peut-être des escarpes, des criminels avaient passé la nuit, accroupis, l'œil grand ouvert dans l'obscurité, l'oreille au guet, les doigts crispés sur le couteau. Ces terreurs jadis obscures, vagues dans son esprit, lui devenaient familières. Il en comprenait la torture, en excusait l'exaspération, et sentait comment le criminel, transformé soudain en bête aux abois, se ramasse dans son coin pour faire tête à ceux qui le poursuivent et se jette en avant, non pour vendre chèrement sa vie, mais pour la seule joie féroce d'apaiser, dans le meurtre, l'épouvante des nuits sans fin. Le drame terrible de la capture se jouait dans son imagination. Il se voyait, lui, terrassé, empoigné par des mains brutales. Il sentait des souffles chauds passer sur son visage, et tout cela faisait éclore en lui une sorte d'héroïsme de barrière. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et, sans oser soulever le rideau, regarda la rue. Sur le trottoir, un homme allait et venait à pas lents. Croyant que cet homme levait les yeux vers lui, il recula sans cesser d'observer. Pour la seconde fois, l'homme leva les yeux. Alors, une sueur glacée descendit entre ses épaules. Le doute n'était plus possible. Cet homme attendait, guettait quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était lui. Il voulut chasser cette pensée absurde, mais il ne pouvait plus en détacher son esprit, et de nouveau les visions de lutte, qu'il avait assaillies tout à l'heure, s'étalèrent devant lui. À l'heure des pires dangers, l'homme sentant sa faiblesse, redevient un enfant. L'état du premier âge laisse en nous une trace si profonde qu'elle reparaît aussitôt que notre raison, notre intelligence acquise, fléchissent. La raison de Coche, épuisée par les transes de la nuit, se troublait insensiblement. Sa crainte se muait en une sorte d'hébétement si complet qu'il en arrivait à croire que tout n'était qu'illusion, fantaisie. Et dans cette minute poignante, il se mit à jouer involontairement au coupable, comme lorsqu'il était petit, il jouait tout seul à la guerre, à la chasse, à la fois général et soldat, chasseur et gibier, éprouvant tour à tour toutes les émotions, s'effrayant du bruit de sa voix et de la fureur de son geste, mimant pour un spectateur imaginaire qui était lui, les drames gigantesques et insoupçonnés éclos dans son âme d'enfant. Dans ce jeu sinistre, il était naturellement le coupable. il se savait surveiller du dehors. Devant sa maison, des hommes montaient la garde. D'autres se glissaient dans l'escalier. Il entendait les marches craquer lentement sous leurs pas. Le bruit cessait, puis reprenait. Un murmure étouffé de voix venait jusqu'à lui. Il distinguait bientôt des mots, des bribes de phrases.
« Il y est. Faites attention. Pas de bruit. »
Et puis, plus rien. Que faire ? Il était cerné de toutes parts. Sous ses fenêtres, des espions étaient postés. De ce côté, la fuite était impossible. Près de la cheminée, une porte communiquant avec une chambre voisine était fermée par deux crampons de fer. Jamais il n'aurait le temps de les faire sauter. Alors quoi ? Attendre que la porte de ce palier s'ouvrit et foncer la tête basse sur les assaillants ? Oui, c'était bien cela. Il prit son revolver, retira la baguette de sûreté et, accroupi dans l'angle de la fenêtre, attendit. Les voix, rêve, jeu, réalité, étaient plus distinctes. L'une disait « Au moindre geste, c'est convenu ?» Le silence se fit. Pas une voiture ne passait dans la rue. La vie semblait s'être arrêtée soudainement. D'une pièce voisine arrivait net et cassant le tic-tac d'un réveil matin. Tout à coup, on frappa à la porte. La chose parut toute naturelle à Coche, non que l'idée lui vint un seul instant que c'était le garçon entrant pour le service. N'était-il pas dans son jeu inconscient traqué par la police ? Elle était là, derrière cette porte. La logique voulait qu'il ne répondît pas. Il se tint quoi et assura son revolver. On frappa une seconde fois. Même silence. Soudain, la porte s'ouvrit. Il s'attendait si bien à la voir s'effondrer sous une poussée violente qu'il demeura stupéfait, oubliant que la veille, il avait omis de la fermer. À peine eut-il le temps de braquer son revolver, déjà des mains s'abattaient sur lui, maintenant ses épaules, tordant ses poignets. La surprise, la douleur furent si fortes qu'il lâcha son arme et se laissa passer les poucettes sans résistance. Alors seulement, il comprit ce qui venait de se passer, que le jeu était devenu une réalité et qu'il était pris. Il restait debout, arraché avec une telle violence à son espèce de rêve, que les événements les plus extraordinaires ne parvenaient plus à l'étonner. Peu à peu, avec la notion exacte des choses, le sang-froid lui revint. Il entendit la voix narquoise du commissaire qui disait « Mes compliments, monsieur Coche !» Et cette voix suffit pour lui rendre le sentiment de la réalité. Or, par un revirement étrange, il éprouva un soulagement réel. Ce qu'il redoutait tant depuis 4 jours s'était produit. Il était pris. Il allait donc pouvoir se reposer et dormir. Innocent, le sommeil paisible de ceux qui, n'ayant rien à se reprocher, abaissent leurs paupières sur des yeux où nulle vision de crime n'a passé. Enfin, et pour la première fois peut-être, depuis la nuit du 13, il eut la notion exacte qu'il atteignait son but et que son reportage triomphal commençait. Ses traits se détendirent insensiblement. Il prit une respiration large, tranquille, et sourit avec un peu d'ironie méprisante. Quand on l'eut fouillé des pieds à la tête, et qu'on eut retourné le lit, les matelas, les draps, les oreillers, le commissaire dit « En route !»« Pardon !» fit Coche, et il se réjouit de réentendre le son de sa voix. « Serait-il indiscret de vous demander, monsieur le commissaire, ce que signifie tout cela ?»
Vous ne vous en doutez pas un peu ?
J'entends bien que vos hommes se sont jetés sur moi, qu'ils m'ont terrassé, ligoté. J'ajoute même qu'ils ont serré les poucettes plus que de raison. Mais je ne saisis pas très exactement pourquoi ces violences. J'imagine qu'on voudrait bien me renseigner sur ce point. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je n'y trouve pas le moindre souvenir d'un délit de presse. Et en aurais-je commis un ? Vous ne m'appréhenderiez pas ainsi, escorté de 10 agents de la sûreté, dont monsieur, ajouta-t-il en désignant Javel, qui a eu l'attention charmante de me tenir compagnie depuis hier soir. » Il avait repris une telle assurance qu'un instant Javel, le commissaire et tous les autres se dirent
« Ce n'est pas possible, nous nous sommes trompés. »
Mais une réflexion identique leur vint. Pourquoi, s'il n'a rien sur la conscience, nous a-t-il reçu le revolver au poing ? Réflexion qui se doubla pour le commissaire et pour Javel d'une question autrement plus précise et plus grave. Comment expliquer qu'un de ces boutons de manchette ait été trouvé près du cadavre ? Cela suffit à leur ôter jusqu'à l'ombre d'un doute. Coche, le cabriolet au poignet, descendit l'escalier entre deux inspecteurs. L'hôtelier, debout sur le pas de sa porte, grogna
« Et avec ça, j'y suis de ma nuit de chambre !»«
Mon pauvre homme, » fit Coche, « vous m'envoyez tout à fait désolé, mais ces messieurs ont cru devoir s'emparer de mon porte-monnaie. En attendant qu'ils me le rendent, adressez-vous à eux. » On le poussa dans une voiture à galerie. En traversant la foule amassée sur son passage, il eut un mouvement de honte. Quand la voiture se mit en marche, une voix stridente s'éleva.
« À mort l'assassin ! À mort !»
Dans une foule, il se trouve toujours quelqu'un pour être au courant de tout. Cette fois encore, le secret avait transpiré. Aussitôt, de nouvelles huées partirent en fusée, féroces, haletantes, et un grondement monta menaçant.
« À mort ! À mort !»
En un clin d'œil, la voiture fut entourée, des hommes, des femmes, des enfants, accrochés au ressort, cramponnés à la tête des chevaux, hurlaient
« Lâchez-le, qu'on le tue, à mort !»
Un inspecteur se pencha vivement à la portière et cria au cocher « Qu'est-ce que vous attendez? Au trot, nom de !» Des agents accourus dégagèrent enfin le fiacre qui s'ébranla parmi les vociférations. Les plus acharnés se mirent à courir derrière, s'essoufflant à clamer
« À mort ! À la guillotine !»
Les gens qui, sur le pas de leur porte, voyaient passer cette voiture escortée d'agents cyclistes, se joignaient pendant quelques mètres au cortège, criant aussi
« À mort ! À mort !»
Enfin, à la hauteur de la rue d'Alésia, un encombrement de la chaussée où deux tramways Montrouge Gare de l'Est arrivaient en sens inverse, permit au cocher de prendre un peu d'avance et de semer les braillards. Enfoncé dans son coin, Coche n'avait pas ouvert la bouche depuis le départ. Tout au plus avait-il dit un timide merci quand un des inspecteurs avait baissé les stores pour le soustraire à la curiosité du public. Les cris, les menaces de tous ces gens l'avaient d'abord effrayé, puis écœuré. Ainsi, c'était là ce peuple de Paris, le plus intelligent du monde? Dans ce pays, berceau de toutes les libertés, dans cette ville d'où s'étaient levées toutes les paroles de justice et de raison, voilà de quelle haine aveugle on entourait un homme dont on ne savait rien que ceci, qu'il était traîné en prison. Voilà de quelles imprécations effroyables on l'accablait parce qu'une voix, une seule voix, avait crié « à mort ». La terrible partie qu'il avait engagée ne lui eût-elle fait sentir et comprendre que cela? Il n'eût rien regretté des angoisses traversées, des vexations à subir. Les choses, maintenant, allaient prendre une marche normale. L'aventure prodigieuse et paradoxale commençait, de la souris jouant avec le chat. Son ironie facile, un instant retrouvée après son arrestation, était tombée. À côté des policiers, des magistrats, des juges, restait cette chose obscure et formidable, le public. Certes, en principe, la voix populaire s'éteignait aux portes du prétoire. Certes, les juges n'avaient pour les guider que leur connaissance des faits appuyée sur leur science des lois. Mais quel homme oserait se dire assez fort, assez juste, assez grand, pour se soustraire totalement à la volonté impérieuse des foules? Un vrai coupable a presque autant à redouter le verdict du peuple que celui de ses juges. Les peines, quoi qu'on dise, varient avec les mouvements d'opinion. Tel crime, aujourd'hui puni de quelques mois de prison, ne conduisait-il pas autrefois son auteur aux galères? Damien, roué vif pour avoir porté à Louis XV un coup de canif insignifiant, aurait-il été condamné au XXe siècle à plus de 2 ans de prison pour insulte envers le chef de l'État? Le premier interrogatoire sommaire terminé, Koch fut enfermé dans une petite cellule du poste. Derrière sa porte, il entendait causer les agents, et de temps en temps, l'un d'eux venait jeter un coup d'œil sur lui, par un Judas. Vers midi, on lui demanda s'il avait faim. Il répondit « Oui ». Mais il avait la gorge serrée, et la seule pensée de la nourriture lui soulevait le cœur. Pourtant, pour ne pas avoir l'air trop ému, quand on lui tendit la carte d'un restaurant voisin, il fit son menu, au hasard d'ailleurs. On lui apporta sa viande toute découpée et ses légumes dans de petites assiettes épaisses et lourdes. À force d'avoir été heurtées et lavées, leur émail avait éclaté par endroits, et l'eau grasse s'infiltrant entre les fentes y avait étendu des taches grises craquelées. Il essaya de manger, ne put avaler une bouchée, mais il but avidement sa bouteille de vin et sa carafe d'eau, après quoi il se mit à aller et venir dans sa cellule, pris d'un désir de mouvement, d'air, de liberté. Sauf les menottes qui lui avaient un peu serré les pouces, il n'avait pas été maltraité. Il avait cru les agents plus brutaux, plus revêches, et s'était déjà préparé à parler haut, au nom de son droit d'homme innocent et devant être traité comme tel, tant que les tribunaux ne l'ont pas frappé. Il s'était imaginé, surtout, que lui-même serait bien différent de ce qu'il avait été. Au cours des derniers jours écoulés, quand il réfléchissait à ce que serait son attitude après son arrestation, il croyait conserver sa vigueur et sa gaieté. Quelques heures de prison avaient suffi à modifier ses pensées. Peu à peu, l'exceptionnelle gravité de son acte commençait à lui apparaître et, avant même que d'avoir pris contact avec la justice, il s'effrayait de tout ce qui l'entourait. Cependant, toutes ses pensées avaient une conclusion rassurante. « Quand j'en aurai assez, je ferai cesser la comédie, et voilà. » Avec le jour tombant, ses idées prirent un tour plus triste. Rien n'évoque mieux les douceurs de l'intimité, la chambre tiède où brûle la bûche silencieuse, la lampe et le grand rond étalé sur la nappe, et la tiédeur de la bonne maison, que le petit froid traître qui, le soir, se répand dans les pièces sombres où viennent mourir assourdis tous les bruits de la rue. Les agents groupés autour d'une table avaient allumé une mauvaise lampe, et l'odeur du pétrole se mêlait aux relents de cuir et de drap mouillé qui le gênaient depuis le matin. Pourtant, dressé sur la pointe des pieds, l'œil au Judas, il regardait avidement ses gens paisibles accoudés dans des poses lasses, et surtout cette lampe au verre ébréché, piquée de taches rousses, mais d'où venait un peu de la clarté qui lui manquait dans sa cellule. Vers 6 heures, on ouvrit sa porte. Il crut qu'on allait l'interroger, mais un agent lui passa le cabriolet et le poussa dans le poste. Il se trouva là avec 2 pauvres diables déguenillés, un pâle voyou qui ricanait, la cigarette au coin des lèvres, et 2 filles qui lui rappelèrent celles qu'il avait vues la nuit sur le boulevard Lannes. Un garde municipal fit défiler devant lui les prisonniers, les compta, puis, un par un, les fit entrer dans la voiture cellulaire qui stationnait devant la porte. Koch passa le dernier et entendit un des agents dire au garde en le désignant « Tâche un peu d'ouvrir l'œil pour celui-là ». Il n'eut qu'un pas à faire pour traverser le trottoir et, machinalement, détourna la tête pour ne pas rencontrer les regards des badauds. Comme il avait les mains liées, on dut l'aider à monter. On le fit entrer dans le dernier box. Il s'assit, les genoux heurtant les planches. La porte se ferma sur lui et la voiture, au trot de ses 2 vieux chevaux, se mit en route, dansant sur le pavé. Cette fois, la grande épreuve commençait. Elle s'annonçait dure. Mais quelle joie ce serait pour lui de se jouer des magistrats, de la police, de les surprendre en flagrant délit d'erreur ou de partialité, et de leur arracher enfin, sans qu'en aucun moment il pût se défier, ces interviews uniques qui le classeraient en tête des plus ingénieux parmi les journalistes. Il se disait cela plutôt pour se donner du courage que par conviction, conservant, il est vrai, l'espoir de retrouver sa bonne humeur et la lucidité de son esprit après une nuit de repos. Le lendemain et le jour qui suivit, il ne vit que ses gardiens. Bien que la solitude lui pesât, il se sentit d'abord moins angoissé qu'il ne l'avait été lorsqu'il se promenait libre dans Paris. tout le jour, il restait étendu sur son lit. La nuit, il dormait assez bien, gêné seulement par la lumière de la lampe électrique placée exactement au-dessus de sa tête. Puis, peu à peu, la surveillance constante dont il était l'objet l'irrita. Après avoir redouté la solitude, il la souhaita complète. La pensée que tous ses gestes étaient épiés, tous ses mouvements suivis, lui devint odieuse, et un doute repoussé d'abord, puis d'heure en heure plus poignant, grandit en lui. Pourquoi ? Sur quel indice l'avait-on arrêté ? Certes, il s'en doutait, mais jusqu'ici, personne ne le lui avait déclaré d'une façon formelle, si bien qu'il se trouvait emprisonné, au secret, sans connaître officiellement la raison de son arrestation. Si pourtant il était accusé d'un autre crime. 20 histoires de forçats reconnus innocents dans la suite venaient à son esprit. Il se sentait armé suffisamment pour se défendre contre une accusation dont il avait lui-même établi toutes les bases, mais non contre les charges que le seul hasard pouvait avoir amassées sur lui. Quand son esprit parvenait à s'affranchir de cette angoisse, une autre question se posait. Comment avait-il pu être pris aussi vite ? Quelle imprudence avait mis la sûreté sur sa trace ? Qu'avait-on trouvé qui permit de le désigner formellement ? Tout ce qu'il avait placé à dessein dans la chambre du crime, le bouton de manchette aussi bien que les bouts d'enveloppe, était destiné à fortifier, à appuyer des présomptions. Mais il ne trouvait rien dans son attitude qui fût capable d'expliquer comment on avait été amené à chercher de son côté. Il se demandait si, dès la première heure, des forces inconnues ne l'avaient pas environné, s'il n'avait pas été suivi la nuit même du crime. Il essayait de se remémorer tous les visages entrevus dans la rue, au restaurant, à l'hôtel. Aucun ne répondait à l'idée qu'il se faisait de l'être mystérieux qui, durant 4 jours, aurait évolué dans son ombre. Et là encore, l'inconnu l'épouvantait. D'invraisemblable qu'elle était d'abord, cette pensée lui sembla possible. De possible, elle lui sembla probable, certaine. Ainsi, pensait-il, j'ai vécu 4 jours accompagné d'un être qui ne m'a pas quitté, dont les regards pesant sur moi m'ont peut-être dicté tous mes gestes. Qui sait ? Peut-être aussi cet être fut-il mon maître avant mon entrée dans la maison du crime ? Si pourtant il m'avait suggéré l'idée de la comédie que j'ai jouée et que je joue encore. Je serais en son pouvoir, je serais sa chose, il me dicterait mes actes, mes paroles. À travers les murs de ma prison, il substituerait sa volonté à la mienne, et moi, vivant, agissant et pensant, je ne serais plus qu'une loque avec la forme humaine et l'apparence de la vie, l'apparence de la volonté. Alors, s'il lui plaisait, demain, dans une heure, de me faire m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis, d'effacer de ma mémoire les détails précis de cette nuit, j'obéirais encore ? Son exaltation croissait de minute en minute. Il se mettait à écrire nerveusement, consignant les moindres faits de sa vie, les relisant pour s'assurer qu'il s'enchaînait logiquement, qu'il retrouvait dans ses notes la trace de sa pensée propre. De tout temps, il avait redouté le merveilleux. Sans jamais parvenir à n'y pas croire, il n'osait nier l'existence des esprits, leur présence immatérielle dans le monde des vivants, leur intervention dans les événements de l'existence. Bien qu'il ne fût pas spirite, il ne s'était jamais senti le courage de rire devant une table tournante, et chaque fois qu'il avait entendu les coups mystérieux frappés par les pieds, il avait reçu la même commotion violente et frémi du même doute menaçant. Tout cela, loin de le pousser à l'aveu spontané de la supercherie, le réduisait à un état de faiblesse et de docilité prodigieux. Il se disait « Si nul autre que moi n'a voulu ce qui arrive, je saurai délier ce que j'ai lié, dévider l'écheveau emmêlé par mes doigts. Mais si des volontés supérieures m'ont fait agir, si je ne fus qu'un instrument entre les mains d'un autre, tout ce que je voudrais ne servirait à rien, puisqu'aussi bien je ne pourrais rien tenter qui ne me soit dicté par celui auquel il est impossible que je n'obéisse pas. » Bientôt il vécut dans un rêve, insensible à tout, attendant avec une patience et un fatalisme d'oriental que les événements se succédant voulussent donner corps à ses doutes. Ainsi coula en lui une sorte de bonheur vague, fait surtout d'indifférence. Et le troisième jour, quand il monta en voiture pour se rendre au cabinet du juge d'instruction, il eut devant ses gardiens une attitude telle qu'ils crurent un instant que le secret avait abattu sa volonté et qu'il avouerait avant un quart d'heure. Fin du chapitre 8, enregistré par Ezoa en Belgique en octobre 2010.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.